nous recevons Éric Garandeau, bonjour.
Bonjour.
Vous co-dirigez avec Frédéric Jousset l'association chargée de la mise en œuvre du Pass Culture. On va évoquer ce dispositif culturel en direction des jeunes. Vous connaissez très bien le secteur culturel en France. Vous avez notamment présidé le CNC. Et pour bien débuter la journée, on va écouter André Malraux. Parce que une journée où on entend du Malraux, c'est une journée qui commence bien.
Dans tout l'Occident, il semblait que la culture fût un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème. Problème dont la solution un peu schématique serait peut-être la culture et l'héritage des œuvres du passé qui concourent à la qualité de l'homme lorsque cette qualité n'est plus fondée sur la foi. De ce point de vue, la doctrine de la Ve République est de rendre présentes les œuvres les plus hautes de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français.
Dans la définition que Malraux donne de la culture, il y avait quelque chose qui l'horripilait, c'est lorsque l'on confondait la culture et les loisirs. Ou alors encore pire, le temps libre. Malraux détestait la notion de temps libre lorsqu'il s'agit de mettre en place ce pass culture pour les jeunes. Éric Garandeau, est-ce que justement on n'a pas tendance à confondre tout cela, à considérer finalement que le tout culturel va être accessible aux jeunes, les jeux vidéo, certains films, des séries, bref, s'éloigner de ce qui fait la culture avec... Bref, vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr. Alors, je pense qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est effectivement de tout mélanger, de dire tout est égal, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... on est dans un relativisme total, on peut décréter que tout est culture. Mais il y a un autre écueil aussi, qui est de mettre la culture sur un, avec un grand C, sur un grand piédestal. Et ça, c'est aussi ce qui peut donner l'impression que c'est quelque chose d'inaccessible, quelque chose d'usé, d'ancien. Et également, peut-être synonyme de souffrance, d'exigence, et pas de plaisir. Je pense que au plus profond de la haute culture, il y a la notion de plaisir, de désir. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs Françoise Nyssen récemment. Le pass culture doit être un instrument de plaisir et un instrument de désir. Tous ceux qui ont eu des parcours justement culturels, artistiques, qui ont commencé à étudier un auteur, qui se sont intéressés à un cours musical, un cours artistique, cinématographique, ont pu construire un parcours qui leur permettait d'avoir des plaisirs de plus en plus intenses, de plus en plus subtils, à mesure que justement leur sens s'aiguisait, que leur appétit s'éveillait, que leur esprit faisait des correspondances de plus en plus nombreuses entre des images, des allégories, etc. Donc, je crois vraiment que le pass culture, c'est un pass qui est fait pour éveiller ce désir et pour provoquer ce plaisir. Il faut surtout pas donner l'impression, quand on entend notamment la voix sépulcrale d'André Malraux, on se dit qu'à l'époque, on prenait son temps, justement. On prenait son temps pour bien parler. Mais je sais pas si sa voix parlerait encore aux jeunes, ou peut-être qu'elle leur parlerait justement parce qu'elle est très différente de ce qu'ils entendent habituellement dans son ton, dans son débit. Et que c'est toujours un grand plaisir d'écouter André Malraux. Et puis après, il faut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle pratique culturelle qui émerge, il y a toujours cette polémique en France, puisqu'on aime bien les polémiques. C'est normal, on a un pays qui aime beaucoup débattre. Et donc, quand le cinéma est apparu, il y a beaucoup de gens qui se sont élevés pour dire « mais le cinéma n'est pas une pratique artistique. Le cinéma, c'est du divertissement pour les masses. » Et aujourd'hui, on a la cinémathèque, on a tout un discours, toute une mythologie sur le cinéma comme 7e art. C'est le débat qu'il y a eu sur le jeu vidéo il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on pourrait parler des séries, voilà, de toutes les pratiques interactives, les univers immersifs. Donc nous, on va essayer de en tout cas, la ministre l'a dit très clairement au comité d'orientation, on va prendre en compte tous les cours culturel, on va en exclure aucun. Et après, simplement, on va encourager les jeunes à avoir des parcours qui leur permettent à la fois d'approfondir ce qu'ils aiment faire, mais aussi découvrir des choses différentes.
Alors, on va suspendre un instant la polémique, Éric Garandeau, pour que vous puissiez nous expliquer en quoi va consister concrètement ce pass culture.
Alors, ce pass culture, donc c'est un instrument qui permet déjà de révéler, de montrer, d'informer le jeune et le moins jeune. Hein, on pourra y venir aussi, mais aujourd'hui on s'intéresse évidemment aux jeunes générations, de leur montrer tout ce qui existe autour d'eux en matière de culture. Donc ça peut être une exposition dans un musée, un festival parce qu'on est bientôt c'est bientôt l'été. Ça peut être une librairie, ça peut être un livre d'un auteur intéressant qui sort dans la librairie et dont l'auteur va venir faire une dédicace dans deux jours. Ça peut être d'assister à une répétition.
Ça va ça a marché comment?
Alors, on dit parfois, en plaisantant, que c'est un peu un Tinder de la culture. C'est-à-dire que quand on lance l'application, c'est une application smartphone.
C'est une application.
Il faut bien le dire. Voilà, c'est une application. On part du principe qu'on va chercher les jeunes où ils se trouvent.
D'accord.
Et on est sûr qu'ils auront toujours, ou quasiment toujours, un téléphone entre les mains. On pourrait presque dire que le pass culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Parce qu'en général, même quand on a tout oublié, on n'a pas oublié son téléphone.
Et alors, je suis désolé d'être prosaïque, mais cette application sera créditée d'un montant de 500 euros?
Voilà, exactement. Donc, 500 euros de pouvoir d'achat qui pourraient être dépensés, on aime bien dire investis, parce que c'est pour nous, c'est de l'investissement dans la culture. Donc, dans l'achat d'un livre, l'achat d'une place de cinéma, voire de deux places, puisqu'on considère que c'est important de pouvoir inviter quelqu'un, même s'il n'a pas 18 ans la même année. Ça pourrait être investi dans un cours de pratique musicale, théâtrale. Donc, voilà, toutes les pratiques et les consommations culturelles seront accessibles via le pass culture. Évidemment, ensuite, c'est chaque offreur de culture qui décide ce qu'il a envie de mettre à disposition sur le pass.
Donc, il sera mis en place pour les jeunes de 18 ans. À quelle date?
Alors, il est déjà testé, c'est intéressant de le dire. Il est testé par à peu près 150 jeunes dans 4 départements et bientôt 5, puisque le président de la République a annoncé un 5e territoire qui est le département du Finistère et qui s'ajoute à la Guyane, la Seine-Saint-Denis, l'Hérault et le Bas-Rhin. Ce pass sera étendu à 10 000 jeunes à peu près, 10 000 jeunes à la rentrée prochaine. Et c'est très important pour nous de pouvoir tester ce pass. Il a été construit par une start-up d'État. Ce n'est pas un oxymore, ça existe et c'est très intéressant comme
vous
nouvelle
testez
méthode.
Ou c'est une mesure dilatoire parce
Non, c'est pas du tout dilatoire. Non, c'est vraiment le mode start-up, c'est-à-dire que quand une start-up naît, elle construit un produit, elle en fait une version bêta, elle le teste. Elle observe les réactions des utilisateurs. Donc, en fait, on peut dire que ce pass, il est co-construit avec les jeunes, parce qu'il vise à répondre à leurs besoins, à leurs demandes. C'est pas du tout une culture qu'on impose d'en haut vers le bas. Donc, c'est au contraire, on essaie de trouver les meilleurs outils pour parler à ces nouvelles générations, d'où l'interface qui a été choisie aujourd'hui, avec ces petites cartes mystères qui éveillent la curiosité. Et petit à petit, ce pass va s'enrichir. C'est-à-dire qu'il y aura évidemment des filtres thématiques. On pourra demander aux gens, s'ils le souhaitent, d'exprimer leurs préférences pour qu'ils puissent être orientés vers des choses qu'ils aiment. Mais on va aussi faire en sorte que des algorithmes, tout ce qui va être développé dans ce moteur de recherche, puissent justement amener tranquillement le jeune à la fois à trouver ce qu'il cherche, à trouver ce qu'il aime, et aussi à trouver ce qu'il ne cherchait pas. Et ça, c'est toute la beauté de ce projet. C'est comme une ville, finalement. La ville, on dit souvent, la ville, ça doit pas être une accumulation de certitudes, c'est plus une somme de mystères et le plaisir de faire des découvertes au coin de la rue, de rencontrer quelqu'un, de faire des rencontres, voilà, des rencontres inattendues. Donc c'est ça, le pass culture, voilà. C'est d'être ce carrefour de rencontres possibles.
Allez, retour vers la polémique, Éric Garandeau. Vous n'avez pas peur que l'on évoque, par exemple, la Startup Nation, donc cette caricature ou cette description que l'on fait de la politique d'Emmanuel Macron, la Startup Nation qui s'empare de la culture, parce qu'il existe toutes sortes d'instruments que vous connaissez très bien, puisque vous êtes un professionnel de la culture. Il y a des bibliothèques en France, il y a des salles d'art et d'essai, bref. Il y a tout un réseau assez serré avec des aides pour les jeunes. Pourquoi en faire une de plus?
Alors, justement, c'est pas une de plus. On peut dire l'offre culturelle en France est très abondante. C'est vrai, c'est une réalité, c'est le succès de décennies de politique culturelle ou même de siècles d'histoire. Donc l'offre culturelle est abondante. Ensuite, elle n'est pas abondante partout. Il y a des territoires qui sont moins riches que le territoire parisien ou des grandes métropoles qui aujourd'hui ont une politique culturelle extrêmement développée. Donc il y a des territoires ruraux où il y a assez peu de festivals ou de lieux de culture. Donc c'est important de pouvoir les référencer et de pouvoir montrer qu'ils existent, de leur donner de la lumière. C'est pas pour rien que l'expérimentation se fait en Guyane aussi. Donc en Guyane, il y a des problématiques, y compris de transport. Voilà, il faut pouvoir accéder physiquement à ces offres. Donc c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait Blabla Pirogue en Guyane. Donc tout ça, c'est des choses qu'on regarde aussi. Vous avez Blabla Car en métropole et vous avez Blabla Pirogue en Guyane. Parce qu'il faut pouvoir se déplacer. Donc le covoiturage en pirogue, ça existe. Et c'est en France. Voilà, la Guyane fait partie de la France. Donc on est en train d'essayer de s'adapter.
Sa pirogue avec le pass culture.
Alors on est en train de voir comment on peut avoir des partenaires, effectivement, dans le monde du transport. Parce que le transport peut être un frein à l'accès à la culture. Après, il y a évidemment toute la culture numérique. Donc, elle sera aussi accessible via le pass, donc pour les territoires qui sont totalement enclavés. Alors, encore faut-il qu'ils aient une couverture réseau aussi. Donc, ça, c'est des choses qu'on regarde également. Mais on peut être rassuré. Comme vous le dites, l'offre culturelle est très abondante. Simplement, nous, le pass, ça vise à la rendre visible. et à trouver. Voilà, c'est d'ailleurs toute la problématique du numérique que vous connaissez bien en tant que média d'information, c'est que dans une offre surabondante, c'est important de savoir se repérer, de dénicher le vrai du faux, de confronter aussi des versions. Et la culture, c'est aussi ce qui permet de forger son opinion. Enfin voilà. Donc la presse, par exemple, la presse aura tout à fait sa place dans le vase culture.
Bon, mais une application, on comprend après tout, pourquoi pas. Peut-être que si Malraux revenait ici sans sa voix sépulcrale,
il ferait des podcasts. Hein, peut-être podcasté.
Non, en tout cas, il ferait peut-être une maison des jeunes et de la culture sur Internet, ça c'est possible. Mais cette somme, car c'est une somme importante que vous allez investir lorsque vous en aurez fini avec l'expérimentation, Éric Garandeau, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux l'investir dans des structures existantes qui tirent tout un peu la langue ?
Alors, je reviens juste sur les maisons de la culture et les MJC également, qui seront des formidables partenaires de ce pass et qui nous ont déjà indiqué qu'ils souhaitaient vraiment faire du prosélytisme autour du pass culture.
Bah alors, pourquoi ne pas donner justement cet argent, je ne sais pas, à la Maison des Arts de Thonon, enfin bref, à ce maillage qui est quand même alors, déjà, plutôt en fait, aujourd'hui désargenté.
Oui, alors... Le pass, après, il ne faudrait pas penser que le pass peut répondre à tous les besoins de toutes les politiques culturelles. Mais il a cet avantage de pouvoir marier ensemble justement des politiques qui sont parfois conçues de façon un peu verticale ou individualiste, parce que tout simplement les opérateurs défendent chacun leur paroisse, et c'est bien naturel. Donc le pass, ça va mettre en réseau aussi, ça va aider à mettre en réseau tous les opérateurs culturels. Donc ça va créer de la valeur. Le réseau, on sait bien, il y a la théorie économique du réseau, le réseau crée de la valeur en soi. Par ailleurs, le fait de mettre sur cette application, potentiellement, j'ai bien potentiellement, jusqu'à 800 000 jeunes par an nouveaux chaque année, c'est-à-dire qui obtiennent la majorité. C'est aussi une création de valeur quelque part, et ça intéresse beaucoup des opérateurs numériques qui sont prêts à prendre sur leur marge pour venir sur le pass à des conditions très privilégiées et qui ne coûtent rien à l'État. Voilà, donc ça ne coûte rien. Bah, vous avez Deezer, par exemple, pour ne pas le citer. Vous avez qui
ils vont faire des offres jeunes.
Et donc, ils vont faire des offres aux jeunes via le pass. Et qui permettront... voilà, c'est le cas aussi de grands services de vidéo à la demande. C'est le cas de la presse, qui viendra aussi sur le pass en mode numérique. Et ça ne coûtera pas un centime à l'État.
Alors, voilà, justement, parce que... On va prendre un service de vidéo à la demande. Allez, au hasard, Netflix. Lorsqu'on prend le catalogue de Netflix, bon, il est toujours difficile de se mettre d'accord sur un critère de qualité, mais en tout cas, on voit bien que la totalité de l'offre Netflix, j'utilise un euphémisme, ne rentre pas dans le cadre de ce que l'on pourrait qualifier d'œuvre culturelle au sens plein du terme. Est-ce que vous n'allez pas finalement inciter les jeunes dans leur vice à regarder des choses qui ne sont pas nécessairement de haute création culturelle ?
Alors pour nous, il y a encore une fois, autant c'est important que... En façonnant le goût, et ça c'est une question de temps, de durée, de pratique dans tous les domaines, c'est important que les jeunes puissent ensuite faire leur propre hiérarchie et arriver à... Autant les séries aujourd'hui, c'est quand même la succession des feuilletons du 19e siècle.
Je ne visais pas nécessairement les séries, je visais ce que Malraux appelait les usines à rêve, dans un sens très péjoratif pour lui.
Mais...
Et lorsqu'il évoquait donc les grandes créations de l'esprit, d'ailleurs il citait Bergman, je crois que c'est dans le discours d'inauguration de la Maison de la Culture d'Amiens, et puis il évoquait d'autres choses qui étaient peut-être moins dignes pour lui. Netflix, c'est évidemment tout cela. Alors, est-ce qu'il faut subventionner Netflix ?
Justement, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y aura pas de subvention apportée à ces grands portails, puisqu'ils viendront pour l'économie du pass, ils viendront sans recevoir de subvention de l'État.
Donc, ils viendront... Subvention indirecte ?
Non, c'est simplement, ils viendront en gratuité s'ils viennent. C'est pas une obligation.
C'est-à-dire qu'en fait, les 500 euros qui seront disponibles dans ce porte-monnaie...
C'est un pouvoir d'achat. Voilà. C'est un pouvoir d'achat.
Mais donc, ils ne pourront pas être dépensés chez Netflix.
Ils pourront éventuellement être dépensés chez Netflix. Mais
c'est ce que j'appelle une subvention indirecte.
Non, parce qu'en fait, si un abonnement vient en gratuité dans le pass, il vient en gratuité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de décaissement vers cette entité, vers cette plateforme.
En imaginant, par exemple, que Netflix ne
simplement,
vienne pas
c'est
en gratuité.
C'est un apport. Voilà, s'ils ne viennent pas en gratuité, justement, pour l'instant, en tout cas, après, on verra. Mais pour l'instant, on considère que si des services numériques viennent, ils viennent en gratuité. Voilà, donc, c'est une contribution qu'ils font quelque part au pass. Après, je ne vous dis pas qu'on va aller faire la cour à Netflix. On va plutôt regarder ce que fait Universiné, ce que fait Cinétech, ce que fait Tank, ce que fait Canal Play qui pourrait se relancer peut-être. Donc on regarde aussi en priorité évidemment tous les portails qui ont une offre culturelle, en l'occurrence vidéo, la plus riche possible. Lina par exemple aussi, Lina qui a un service et qui est prêt à mettre son service Lina Premium sur le pass. Donc ça c'est très intéressant. évidemment France Culture, Radio France et l'offre culturelle qui est en train d'être mise en commun entre France Télévisions et Radio France et France Média Monde, évidemment on souhaite que cette offre soit disponible sur le pass. Et là, pour le coup, en plus, c'est une offre gratuite.
Et alors, dans le domaine donc des produits culturels, des œuvres qui sont les plus légitimes, les plus généralement qualifiées de culturelles, qu'est-ce qui va être fait dans ce domaine-là? En quoi le Pass Culture Éric Garandeau va permettre, par exemple, de lire de la littérature, d'aller au musée?
Alors c'est tout le travail qu'on va mettre en place et qu'on va développer au fil des mois et des années. Pour faire en sorte que, à la fois par la curation, pardon pour ce mot qui n'est pas très français, mais enfin voilà, une forme de conservation dans mon sens du terme, puisse être faite à la fois d'un point de vue humain, c'est-à-dire d'éditorialisation, voilà, c'est peut-être le meilleur terme. Donc l'offre sera éditorialisée à la fois par le Pass Culture, mais aussi par toutes les offreurs de culture, les opérateurs culturels, qui eux-mêmes choisiront les événements qu'ils veulent mettre en scène. Et donc là, on espère qu'évidemment, ils nous feront des propositions audacieuses, innovantes, comme le font par exemple les musées, avec des visites nocturnes, avec des animateurs pour les jeunes, de la musique, des concerts, etc. Et plus l'offre sera riche, plus elle sera, mieux elle sera référencée, y compris par les algorithmes. Donc voilà, ça c'est des éléments intéressants. Ensuite, l'algorithme, il pourra faire des mises en correspondance pour que, bah, si vous aimez les musiques, je sais pas, si vous allez voir Star Wars, peut-être qu'il va vous dire, bah tiens, est-ce que vous connaissez la musique de John Williams? Sachez qu'il a aussi travaillé sur tel ou tel film. Et ou si vous avez aimé tel auteur, bah on va vous présenter un autre auteur qui n'est pas le même et qui a un courant aussi.
Et alors ça, on peut le voir dès maintenant
Donc on peut le voir dès maintenant, et évidemment c'est un travail de longue haleine.
Donc on peut télécharger cette appli tout de suite.
Alors, si vous faites partie des 10 000 heureux élus...
Des jeunes de 18 ans, non, je vais demander à Anne Fauquemberg si elle
mais très vite,
a 18 ans, mais...
Très vite, en tout cas, on veillera à ce que l'application soit disponible, y compris à des jeunes et des moins jeunes. On réfléchit même déjà à des déclinaisons autres, qui pourraient être pour les touristes ou pour les seniors, etc. Mais donc le pass, l'idée c'est qu'il soit accessible à terme, à tout le monde, et qui puisse même être alimenté par tout le monde, par les entreprises, par les parents, les grands-parents.
Éric Garandeau, vous êtes chargé avec Frédéric Jousset de mettre en œuvre ce Pass Culture. Et figurez-vous que dans une vingtaine de minutes, on va avoir une jeune dans ce studio, Léa Frédéval. Son film Les Affamés sort aujourd'hui en salle. C'est justement une peinture de la situation des jeunes, des jeunes précaires, bien souvent, de ceux qui galèrent pour gagner leur vie. Et on va lui poser la question de savoir justement ce que l'on peut attendre de la culture, comment on peut la mettre à disposition des jeunes.